à l'écoute de VOA Afrique.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mercredi 27 décembre 2023. Bonjour à toutes et à tous, en direct de Washington, Idrissa Seydoutia. Tout d'abord les titres. En RDC, interdiction d'une manifestation de l'opposition contre des irrégularités dans les récentes élections. Au Burkina Faso, enlèvement d'Ablassé Ouédraogo, ancien ministre des Affaires étrangères, annonce son parti. En Zambie, démission du ministre des Affaires étrangères après des soupçons sur une transaction douteuse. Gaza, la guerre contre le Hamas palestinien durera probablement de nombreux mois, a déclaré mardi le chef d'état-major de l'armée israélienne. Les États-Unis interdisent des montres Apple pour violation de brevets. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco et nos dossiers du jour. Pour l'instant, le journal. En République démocratique du Congo, le gouvernement a annoncé hier que la manifestation de l'opposition prévue ce mercredi serait interdite. Le point avec Nanit Talani.
La manifestation a pour but de mettre à mal le processus électoral. Le gouvernement ne peut pas accepter cela, a déclaré le ministre de l'Intérieur Peter Kazadi. Dans une lettre publiée samedi, 5 candidats, dont Martin Fayulu et Denis Mukwege, ont informé le gouverneur de Kinshasa de leur intention d'organiser une marche ce mercredi pour protester contre les irrégularités, qualifiant le scrutin de simulacre. L'ancien gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, a de son côté appelé à l'annulation pure et simple des élections. Une dizaine d'organisations de la société civile et d'autres candidats se sont joints à cet appel en exigeant l'annulation des scrutins. Ils ont aussi indiqué qu'ils comptaient se joindre à la manifestation ce mercredi malgré l'interdiction. Des résultats partiels de la présidentielle diffusés par la commission électorale placent le président sortant, Félix Tshisekedi, en tête avec 77,34% après dépouillement de seulement 10% des bulletins.
RDC toujours, des pluies diluviennes ont fait au moins 22 morts et causé d'importants dégâts matériels mardi à Kananga, chef-lieu du Kasaï central, dans le centre du pays, selon un bilan provisoire communiqué par les autorités de la province. Selon elles, plus de 15 maisons ont été emportées dans des éboulements causés par la pluie, tombée en quantité dans la nuit et une bonne partie de la journée, et ces dégâts résultent des constructions anarchiques que connaît la ville. Dimanche, une vingtaine de personnes avaient été emportées par une rivière en crue dans l'est du pays, dans la province du Sud Kivu. 4 corps ont été retrouvés. Au Burkina Faso, l'ancien ministre des Affaires étrangères, Ablassé Ouédraogo, a été kidnappé selon son parti, le Faso Autrement, qui demande sa libération immédiate et sans condition. De Ouagadougou, notre correspondant, Lamine Traoré.
Le parti Le Faso Autrement de Ablassé Ouédraogo, rentré de voyage le dimanche 24 décembre dans l'après-midi, a vu sa résidence au quartier Ouaga 2000, subitement encerclé par des hommes armés, encagoulés. Selon le parti, deux d'entre eux ont pénétré dans la cour pour demander au docteur Ablassé Ouédraogo de les suivre. Il n'a opposé aucune résistance et a embarqué vers une destination inconnue. Le parti de l'ancien ministre a exprimé son inquiétude, a condamné et a dénoncé le kidnapping de son président. Il a exigé la libération immédiate et sans condition d'Ablassé Ouédraogo. Les individus qui ont perpétré cet enlèvement indigne, affirme le parti, seront tenus pour responsables de tout ce qui pourrait advenir au docteur Ablassé Ouédraogo, âgé de 70 ans. Au mois de novembre, Ablassé Ouédraogo a été placé sur une liste de personnes réquisitionnées pour être envoyé au front. Difficile pour l'heure de savoir s'il a été enlevé dans le cadre de cette réquisition. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Au Sénégal, l'opposant emprisonné Ousmane Sonko a déposé au Conseil constitutionnel sa candidature à la présidentielle du 25 février 2024, malgré le refus de l'administration de lui livrer tous les documents nécessaires. C'est ce qu'a indiqué hier Ousseynou Ly, un responsable de la cellule de communication du PASTEF, son parti. Bassirou Diomaye Faye, lui aussi en prison, a de son côté déposé son dossier de candidature, selon lui. M. Faye est le plan B du parti de M. Sonko, dont les autorités ont annoncé la dissolution fin juillet pour l'élection présidentielle. L'ancienne première ministre Aminata Touré, autrefois proche de Macky Sall et qui a ensuite rejoint l'opposition, a aussi annoncé le dépôt de sa candidature lundi. C'est le 20 janvier que le Conseil constitutionnel doit annoncer la liste des candidats retenus à la présidentielle. Le ministre zambien des Affaires étrangères, Stanley Kakubo, en poste depuis septembre 2021, a démissionné mardi après des soupçons sur une transaction commerciale avec un homme d'affaires chinois, a indiqué la présidence de ce pays d'Afrique australe. Avant sa démission, une vidéo montrant deux personnes en train de compter des liasses de billets sur une table était devenue virale sur les réseaux sociaux.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La guerre contre le Hamas palestinien dans la bande de Gaza durera probablement de nombreux mois en raison des objectifs élevés qu'Israël entend atteindre, a déclaré hier le chef d'état-major de l'armée israélienne. Dans le même temps, le président américain Joe Biden et l'émir du Qatar discutent des otages et de l'aide humanitaire. Jean-Roger Bion.
Le gouvernement israélien s'est engagé à anéantir le Hamas après l'attaque du mouvement islamiste palestinien qui a fait environ 1200 morts le 7 octobre dans le sud de l'État hébreu. L'armée israélienne a lancé alors une vaste offensive aérienne et terrestre dans la bande de Gaza qui, selon les autorités de l'enclave dirigée par le Hamas, a désormais tué près de 21 000 Palestiniens en 2 mois et demi. Il n'y a pas de raccourci pour démanteler une organisation terroriste. « Seulement un combat résolu et tenace », a dit Herzi Halevi dans une déclaration télévisée à la frontière entre Israël et la bande de Gaza. « Nous allons aussi atteindre la direction du Hamas, que cela prenne une semaine ou que cela prenne des mois. » Sur le front diplomatique, l'agence de presse officielle qatari a annoncé que l'émir du Qatar, Sheikh Tamim Ben Ahmed Al Thani, et le président américain Joe Biden se sont entretenus mardi des derniers développements et des efforts de médiation en cours afin de pacifier la situation dans l'enclave palestinienne et de parvenir à un cessez-le-feu permanent lors d'un appel téléphonique, une information confirmée par la Maison-Blanche dans un communiqué.
L'armée américaine a abattu mardi en mer Rouge de nombreux drones et missiles d'attaque tirés par les rebelles houthis du Yémen, a fait savoir le commandement américain au Moyen-Orient. Différents moyens militaires, dont des avions, ont abattu 12 drones d'attaque, 3 missiles balistiques antinavires et 2 missiles de croisière dans le sud de la mer Rouge, tirés par les Houthis mardi, a déclaré le CENTCOM sur X, anciennement Twitter, précisant qu'aucun dégât ni blessé n'est à déplorer. L'interdiction de plusieurs modèles de la montre connectée d'Apple pour cause de violation de brevet est entrée en vigueur hier aux États-Unis. L'administration Biden a choisi de ne pas opposer son veto à cette décision. Arzuma Compaoré.
Après des consultations approfondies, la représentante au commerce Catherine Tai a décidé de ne pas s'opposer à la décision de la Commission américaine du commerce international, devenue définitive depuis hier. L'ITC a estimé qu'Apple a violé 2 brevets détenus par Massimo Corporation et Circeco Laboratories. Elle avait recommandé à la fin octobre d'interdire aux États-Unis plusieurs modèles de l'Apple Watch accusés par le fabricant d'appareils médicaux Massimo de copier ses technologies de détection du taux d'oxygène dans le sang. Apple a annoncé dès le 18 décembre la suspension de la vente aux États-Unis des montres Apple Watch Série 9 et Apple Watch Ultra 2. Ces modèles ne sont plus disponibles depuis le 21 décembre sur son site internet et depuis le 24 décembre en boutique. Apple, qui a aussi décidé hier de faire appel auprès d'une juridiction fédérale, avait lancé fin 2022 deux recours en justice pour non-respect de brevet à l'encontre de Massimo, l'accusant de copier la technologie de ses montres connectées.
Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, se rend ce mercredi au Mexique pour tenter de trouver des solutions face à un nouvel afflux de migrants à la frontière, sujet d'un débat politique brûlant ici aux États-Unis. Ces dernières semaines, quelques 10 000 personnes par jour ont tenté de traverser illégalement la frontière sud des États-Unis, soit près du double des chiffres avant la pandémie. Et une caravane de milliers de migrants a quitté le sud du Mexique dimanche pour tenter de rejoindre les États-Unis. Le président nord-coréen Kim Jong-un a donné le coup d'envoi de la grande réunion annuelle de fin d'année du Parti des travailleurs au pouvoir, a rapporté mercredi l'agence officielle KCNA. La Minute Éco, Mohamedou Houmfa.
La croissance économique du Ghana est en train de rebondir après trois années difficiles, a déclaré lundi le président ghanéen Nana Akufo-Addo dans un message de Noël à ses compatriotes. L'inflation est maîtrisée, nous connaissons un taux de change relativement stable et la croissance de notre économie rebondit, a-t-il affirmé, invitant les Ghanéens à faire preuve d'hospitalité à l'égard des touristes pendant la saison des fêtes afin de dynamiser le secteur touristique. Au Nigeria, le gouvernement envisage d'investir en 2024 plus de 23 milliards de naira dans la remise à niveau des installations aéroportuaires du pays, notamment l'extension de certains terminaux, la remise à niveau des pistes d'atterrissage, la construction des bâtiments administratifs, la maintenance et la réparation des équipements de navigation aérienne. Le Nigeria exécute depuis plusieurs années un programme de modernisation de ses aéroports pour améliorer les standards de ses infrastructures et en faire des hubs régionaux. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a signé dimanche la loi des finances pour l'année 2024. Cette loi des finances prévoit un taux de croissance de 4,2% en 2024, de 3,9% en 2025 et de 4% en 2026. Adoptée par les deux chambres du Parlement, cette loi intervient dans un contexte de reprise économique grâce à une hausse des prix du Brent et une balance commerciale excédentaire, selon les observateurs locaux.
Merci Mohamed. Les sports à présent avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Le sélectionneur de la Mauritanie a publié sa liste de joueurs retenus pour la prochaine CAN en Côte d'Ivoire.
Oui, 27 Mourabitoun ont été appelés par le sélectionneur Amir Abdou pour cette CAN 2023. On remarque surtout la présence du milieu de terrain de Pau, Oumar Ngom. À 19 ans, il va découvrir cette compétition. El Hadjiba, lui, est de retour en sélection. L'ancien Lensois s'est engagé avec le club mauritanien du FC Nouadhibou. La Mauritanie partage le groupe D avec le Burkina Faso, l'Algérie et l'Angola, logés à Boaké dans le centre. La CAN est prévue du 11 janvier au 11 février prochain.
La FIFA et la Confédération sud-américaine de football ne tolèreront aucune ingérence étatique dans la crise dans le football brésilien.
L'instance mondiale du ballon rond et la Confédération sud-américaine de football mettent en garde contre toute ingérence étatique dans la gestion des fédérations. Elles disent qu'elles n'hésiteront pas à suspendre le Brésil si Hernando Rodriguez n'est pas rétabli à la tête de la fédération brésilienne. Le règlement est clair et net. L'intervention de forces externes dans le champ de compétences des fédérations associées n'est en aucun cas permis, prévient une source interne de la FIFA. Le président de la Fédération brésilienne de football, Hernando Rodriguez, a été écarté de ses fonctions le 7 décembre sur décision judiciaire. La justice a confié la gestion de la fédération à un intérimaire, José Pertis, avec pour mandat d'organiser de nouvelles élections. La FIFA et la Conmebol ont décidé d'envoyer une mission à Rio de Janeiro qui commencera à travailler le 8 janvier pour tenter de trouver une solution à la crise. Le Brésil dispute actuellement les éliminatoires du Mondial 2026 et doit jouer la Copa América 2024 en juin-juillet prochain.
Des nouvelles du championnat d'Arabie Saoudite où Ronaldo et Sadio Mané ont brillé hier.
Un doublé du Portugais et un autre du Sénégalais ont permis à Al Nassr de surclasser Al Ittihad de Karim Benzema 5-2. Critiqué par la presse saoudienne pour son manque d'efficacité et son supposé manque d'implication, Benzema n'a pas trouvé le chemin des filets. Les deux buts d'Al Ittihad ont été inscrits par le Marocain Abderrazak Abdallah. Al Nassr conforte ainsi sa deuxième place à 7 points du leader Al Hilal après cette 6e défaite en 17 matchs de championnat. Le champion en titre Al Ittihad reste 6e à 22 longueurs de la tête.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En République démocratique du Congo, des voix s'élèvent après les scrutins du 20-21 décembre. Le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa, a déclaré que ces élections ont été un gigantesque désordre organisé et planifié. Des candidats de l'opposition voulaient organiser ce mercredi une manifestation, mais leur marche a été interdite par les autorités. Antoine Roger Bolamba a joint Jean-Baptiste Nundu, membre de la société civile de la RDC.
D'après la loi congolaise, le vote dure de 6h à 17h. 11 heures de vote. Alors, quand on commence en retard, on est obligé de tenir les 11 heures de vote. Malheureusement, ça n'a pas été possible parce que très vite, les agents des bureaux de vote se sont fatigués et parfois ont dû interrompre même les opérations de dépouillement et de vote pour recommencer le lendemain. C'était quand même une irrégularité assez grave. Et puis est venue maintenant toute l'ambiance avec, dans les réseaux sociaux, des images violentes des femmes qui se faisaient tabasser, des images de machines à voter ou des dispositifs électroniques de vote que l'on retrouvait dans les domiciles des tiers ou des personnes qui arrivaient avec des bulletins de vote entre leurs mains ou carrément des dispositifs électroniques de vote en pleine route et qui se faisaient interpeller par la population. Ça n'a pas donné une bonne image du processus de vote. On a eu l'impression que c'était un gros désordre par rapport à l'organisation des scrutins le 20 décembre.
Dans cette optique, vous êtes en train de donner raison au cardinal Ambongo qui considère que les élections en République démocratique du Congo étaient pratiquement un gigantesque désordre organisé et planifié.
Bon, c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas encore les conclusions des rapports de mission d'observation pour essayer de savoir quelle est l'ampleur de ces irrégularités. Mais l'impression qu'on a, c'est que le retard par rapport à l'ouverture des bureaux de vote n'était pas anodin. On a l'impression que un certain nombre de députés, de candidats députés nationaux, de candidats députés provinciaux bénéficient d'avoir le dispositif électronique de vote à disposition pour pouvoir influencer d'une manière ou d'une autre le vote en leur faveur. Et ça, c'est quand même une fraude grave. Et le plus gros problème aujourd'hui, c'est aussi ce manque de transparence de la Commission électorale nationale indépendante pour donner le nombre de bulletins de vote, les nombre de dispositifs qu'elle avait à disposition de manière à ce qu'on puisse ensuite arriver à une traçabilité de tous ces éléments sensibles du processus électoral. Une autre image qui a un peu aussi perturbé, c'est cette faiblesse de la sécurisation du processus électoral. À plusieurs reprises, on avait l'impression que le déploiement des matériels électoraux, le déploiement des dispositifs électronique de vote était sans garde, sans protection de la police nationale, de sorte que la population pouvait facilement atteindre le matériel sensible de vote, et ça ne donnait pas une très bonne image.
Jean-Baptiste Nundu, membre de la société civile en RDC.
Bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en RDC, à Lubumbashi évidemment sur le 102.8 FM.
Au Tchad, plusieurs partis politiques partisans de l'État unitaire jubilent après la publication des résultats provisoires du référendum. D'après la Commission nationale chargée du référendum constitutionnel, 86% des électeurs ont dit oui au projet de constitution consacrant l'État unitaire et 14% ont dit non, avec un taux de participation de 63,75%. Différentes réactions des hommes politiques des deux camps dans ce reportage d'André Koutmadjingar, notre correspondant à N'Djamena.
Le monde a été témoin d'un événement qui fait la honte du Tchad. Nous ne savons pas si ce sont des esprits et des fantômes qui ce jour ont voté, de sorte que ce ne soit que le Conorec qui connaît ce niveau de participation si élevé. C'est un mensonge de notre âge.
Lydie Biasunda, présidente du PDI, Parti pour la démocratie et le développement intégral, membre du Bloc fédéral, elle affirme que non seulement le taux de participation est faible, mais aussi le non a gagné.
Cela est incontestable. Sur le terrain, nous étions dans plusieurs provinces. Nous avons observé. La fuite en avant, c'est qu'ils ont systématiquement confisqué tous les PV. Et en même temps, les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets se sont enfermés pour changer tous les PV. Alors, s'ils sont sûrs de ces résultats, pourquoi le ministre de l'administration du territoire, par ailleurs président du Conorec, n'a pas rendu public le résultat? Jusqu'à ce moment où je vous parle, je viens de demander le résultat publié. Cela n'a pas été rendu public. Ça veut dire qu'il y a un problème quand on sait que dans deux jours, la Cour suprême va délibérer définitivement.
Des allégations réfutées par les partisans de l'État unitaire. Pour eux, les fédéralistes font de la gesticulation inutile.
Moi, j'étais dans l'opposition à l'époque, dite radicale, donc ça ne m'étonne pas qu'ils puissent avoir un avis contraire, et c'est la démocratie. Je crois que maintenant que les résultats sont là, je leur demande quand même de revenir à la raison.
Abdourahmane Diasnabaï, président du parti Alliance Tchadienne pour le Développement. Toutefois, il reconnaît que la mauvaise gouvernance gangrène l'administration publique. Et c'est ce qui frustre le peuple tchadien.
D'une manière générale, il faut une gouvernance qui puisse prendre en compte les préoccupations de la population qui, quand même, malgré tout, ont voté oui.
Natoy Alaringar, porte-parole de l'Alliance du Bloc Citoyen pour un État fédéral au Tchad, estime pour sa part que le camp du boycott a dominé et menace d'appeler les Tchadiens à descendre dans la rue pour revendiquer sa victoire.
Je pense que Conorec payera très cher parce qu'on ne peut pas continuer par voler la voix du peuple. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Raison pour laquelle nous avons lancé une marche le 3 janvier et les Tchadiens sortiront. Et c'est seul Conorec qui sera responsable de tout ce qui est à venir. Et je profite également de votre micro pour attirer l'attention de la Cour suprême. Si à lieu de rattraper les choses, il faut qu'elle rattrape pour recadrer.
Pour Dividi Boukar Diban du Parti démocrate et socialiste, partisan de l'État unitaire décentralisé, le peuple tchadien vient de faire un bon choix pour le vivre ensemble.
Le Tchad, honnêtement, n'est pas encore mieux pour aller au système fédéral, de peur que nous basculions dans la guerre civile.
Il est vrai, il y a un problème de gouvernance qui se pose au Tchad. La gouvernance, elle est exclusive. Ça, personne n'accepte ça.
Mais néanmoins, nous pensons que tout homme peut changer. Je pense que les gouvernants sont assez vigilants pour changer la gouvernance, pour que les Tchadiens les fassent entièrement confiance.
La Cour suprême a jusqu'au 28 décembre pour proclamer les résultats définitifs du référendum. André Koutmadjingar, N'Djamena pour VOA Afrique.
VOA Afrique, N'Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Au Nigeria, au moins 160 personnes ont été tuées et des centaines d'autres blessées dans des attaques menées par des groupes armés entre samedi et lundi dans plusieurs villages de l'État du Plateau, dans le centre du pays. Des groupes armés, localement appelés bandits, ont attaqué plus de 20 villages, incendiant de nombreuses maisons. Yakuba Ouedraogo a joint à Cincinnati, ici aux États-Unis, le professeur Amoussou Tunduno, ancien vice-recteur de l'Université de l'État de Lagos.
Le bilan, ben, c'est tout simplement le reflet de ce qui se passe depuis des années. Parce que tout simplement, quand il y a des massacres de ce genre et personne ne réagit, c'est une invitation à d'autres massacres. Et vous savez que les paysans, très souvent, ils sont pas armés. Alors que les bandits, ils ont tout ce qu'il faut. Il y a beaucoup d'armes qui circulent. Et moi, je suis bien persuadé que, d'une part, il y a l'irresponsabilité des autorités. Et il y a aussi une sorte de collaboration avec ces bandits. Parce qu'il est vrai que le Niger est notre grand pays, mais ce n'est pas une raison suffisante pour que les gens descendent et qu'ils aient tout le temps pour massacrer, non pas deux ou trois personnes, des centaines. On n'a pas besoin vraiment d'analyser la question, parce que c'est une question qui remonte à je sais combien d'années, parce qu'en tout cas, moi, je sais que régulièrement, il y a ces bandits qui arrivent, qui massacrent et qui s'en vont.
Est-ce que ces attaques de la part de personnes dites des bandits sont le soubassement ou encore le prolongement des conflits entre éleveurs et agriculteurs dans l'état du plateau?
Ah là, vous avez bien compris, parce que les éleveurs ont besoin, n'est-ce pas, de cultiver. Et quand ils cultivent, les autres arrivent avec le bétail pour tout détruire. Où voulez-vous, nard, on a tout ce qu'il faut pour un conflit en permanence. À moins que le gouvernement intervienne et que les autorités puissent dire, voilà, il faut quand même que les cultivateurs puissent les cultiver, sinon il n'y aura rien du tout. Il y a la famine qui menace de toutes parts. Et si on ne fait rien, évidemment, la conclusion, ça s'impose.
Que ce soit le gouvernement de l'actuel président Tinubu ou celui de son prédécesseur, tous parlent de la lutte justement contre l'insécurité. Qu'est-ce que l'armée fait dans tout cela?
L'armée, je crois, c'est très peu. Vous savez, l'armée chez nous, ça vaut ce que ça veut. Parce qu'on nous a toujours dit que l'armée devrait pouvoir protéger la population, mais il y a beaucoup de malversations au niveau de l'armée. Il y a beaucoup de vols. L'armée, c'est une autre paire de manches. Il est vrai que du temps de Boiry, on n'a pratiquement rien fait. Général qu'il était, il n'a rien prévu pour mettre un terme à ce genre de situation. Et moi, je ne vois pas comment Tinubu, qui n'a même pas fait une sous-journée dans les forces armées, comment il va pouvoir résoudre le problème.
Le professeur Amoussou Tunduno, ancien vice-recteur de l'Université de l'État de Lagos.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Au Cameroun, la situation des déplacés a été au centre d'une rencontre entre la presse et les responsables du HCR. Selon les statistiques, 485 000 réfugiés vivent au Cameroun. Le pays enregistre aussi plus d'un million de déplacés internes suite à la crise anglophone, aux conflits intercommunautaires et aux exactions de Boko Haram. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Jultap.
Selon le HCR, le nombre des personnes déplacées est évalué à plus de 2 millions d'individus au Cameroun. Mais cette année, le HCR a fermé deux bureaux, l'un à Toubouro au nord et l'autre à Boya au sud-ouest. Guillaume Olivier Bière, représentant résident du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au Cameroun.
À Toubouro, par exemple, on a toujours une communauté de 40 000 personnes, mais presque zéro afflux. Ces gens sont quasi autonomes de par eux-mêmes. À Boya, on s'est dit, on a le plus besoin de nous, c'est plus dans le nord-ouest que dans le sud-ouest. Mais nous fermons nos bureaux. Nous n'arrêtons pas les partenariats avec les partenaires.
À Domayo et à Bogo, dans la région de l'extrême nord, deux camps de déplacés internes sont encore fonctionnels. Ces camps accueillent les personnes qui ont fui en 2021 les exactions du conflit entre pêcheurs agriculteurs musulmans et des éleveurs arabes. Le retour volontaire de ces déplacés internes préoccupe le HCR. Kimberley Robertson, chef du sous-bureau HCR à Maroua, dans la région de l'extrême nord.
Toute la population qui vivait à Domayo, tout le monde a dit « on veut retourner ». Et la plupart, la majorité de la population de Bogo a dit la même chose. Le gouverneur a dit « on va vous accompagner ». Aussi, il y avait le sous-préfet et le préfet qui dit « oui, la sécurité est là ». Et la semaine passée, les Namido de Pousse et les Namido de Guerridique, ils ont invité les représentants de la communauté déplacée, aussi la communauté haute, de faire la prière ensemble. Ils ont parlé de la paix.
Ce conflit a fait plus d'une vingtaine de morts et le HCR propose désormais des activités de cohésion sociale entre les deux communautés. Kimberley Robertson, chef sous-bureau HCR de Maroua, dans la région de l'extrême nord.
Et je pense que c'est ce dialogue-là qu'il faut laisser les gens d'être ensemble et de créer une atmosphère où les difficultés peuvent être discutées, qu'il y a aussi la possibilité de la justice, je ne sais jamais, parce que ça c'est un élément qui est très important.
Le bureau du HCR a connu une diminution de son budget, ce qui a impacté certaines interventions en faveur des personnes déplacées. Olivier Guillaume Bière, représentant résident du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au Cameroun.
Tout le monde ne bénéficie pas des soins de santé, il y a des critères. Mais je dirais que ce n'est pas juste une question de financement, c'est aussi une question d'approche. L'UHR qui a changé d'un modèle d'assistance qui avait sa raison d'être à l'époque de l'urgence. C'était le cas ici au Cameroun lors de l'arrivée des Centrafricains et des Nigériens. Nous ne sommes plus dans ce cas de figure plus de 10 ans après.
Yaoundé, Emmanuel Jumtap, VOA Afrique.
Voilà pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Seludia, à la mise en œuvre de Georges Léonard Sayo, à la console Kelvin Fowler. Bonne journée.